Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre à l'écoute de Radio Foot International, comme chaque fin d'après-midi et sur RFI, bien sûr. Dans les débats du jour, un nouveau candidat à la présidence de la CAF. Et oui, encore un. Cette fois, c'est Ahmed Yahia qui préside la Fédération de Mauritanie. Il a annoncé hier soir par un tweet vouloir promouvoir le football africain. À 48 heures de la clôture des inscriptions, ils sont désormais 4 candidats pour une élection prévue en mars prochain. En Afrique, toujours les éliminatoires en vue de la CAN, avec à ce stade les rencontres en aller-retour dans chacun des groupes qui se disputeront sur une semaine, notamment ce Sénégal-Guinée-Équatoriale demain soir ou encore Côte d'Ivoire-Madagascar. En Europe, en attendant la Ligue des Nations, des matchs amicaux et pour les Bleus, une rencontre contre les Finlandais. Un groupe où est appelé un nouveau joueur, il s'agit de Ruben Aguilar. Enfin, la Liga avec ce Real Madrid giflé à Valence, le Barça qui remonte un peu et l'Atlético qui a trouvé son rythme cette année, semble-t-il. La pause fera du bien, certainement, au club de la Liga et des autres championnats européens. François David sera en direct pour nous en dire plus. Monsieur Philippe est là. Bonjour Philippe Doucet.
Bonjour Madame Annie.
Tout va bien?
Mais oui, impeccable.
Naïm Ouagnaf est là aussi avec son beau maillot des 10 ans. Bonjour,
oui, bonjour
Naïm.
Bonjour à tous.
Avec son nom dans le dos, de même que Patrick Juillard, notre
avec
camarade
grand plaisir. Bonjour
Foot
Annie.
Africa bonjour 365, bonjour. Laurent Salerno est à la réalisation, Marie-Amélie Motte m'a aidé à préparer l'émission. À Radio Foot, c'est parti.
À 44 ans, Ahmed Yahia piste désormais un gros poisson. Une suite logique pour cet homme d'affaires qui a fait fortune dans la pêche sur la ville côtière de Nouadhibou et qui n'a récolté que succès et louanges dans ses filets depuis une décennie.
Ahmed Yahia, candidat au siège de la présidence de la CAF. Après les déclarations d'intention de l'Ivoirien Jacques Hanouma et du Sud-Africain Patrice Motsepe ces derniers jours, le président de la FRIM, donc, cette fédération de Mauritanie, a communiqué hier soir à son tour son désir de diriger la CAF. Dans son tweet, il écrit « Soucieux de promouvoir le football africain et au terme d'une profonde réflexion et d'ample concertation, j'ai décidé de présenter ma candidature ». Alors cet homme d'affaires, vous l'avez entendu, spécialisé dans l'industrie du poisson, quadragénaire, il n'est pas des plus connus ni des plus puissants présidents de fédération en Afrique, mais son travail depuis 9 ans à la tête de la fédération, de sa fédération, surtout sa sélection passée de la 190e place à la 100e avec désormais une compétition de CAN au compteur et puis un CHAN, ça lui a valu le soutien du président de la FIFA et qui le cite en exemple sur le continent africain. Philippe Doucet, est-ce que cette candidature pour vous a du poids?
En tout cas, elle comme celle d'hier et d'avant-hier entre Jacques Hanouma et Patrice Motsepe, signifie clairement que tout le monde a les mêmes informations, c'est-à-dire que le président Hamad ne sera pas de cette élection et que donc tout le monde se sent autorisé à se présenter. On n'a jamais eu autant de candidats pour une élection, c'est extrêmement rare. Tout le monde se précipite à quelques jours de l'échéance. C'est bien
ça,
qu'il y a,
faut que ce soit fait avant le 12.
Il y a un appel d'air très important et comme par hasard de personnes qui sont considérées comme assez proches de Gianni Infantino. C'est le cas de Ahmed Yahia, c'est le cas également de Patrice Motsepe. Donc il y a quand même des indications, des indicateurs forts pour que l'élection ne soit pas du tout ce qui était prévu.
L'élection, d'abord s'il n'y avait pas Monsieur Hamad, c'est en fait ça serait un empêchement d'être candidat.
Semble-t-il,
oui, une décision de justice.
La BBC avait révélé la semaine passée que les investigations de la commission d'éthique indépendante de la FIFA se poursuivaient à l'encontre d'Hamad et qu'il n'était pas impossible qu'il soit prochainement suspendu et donc empêché de briguer cette présidence. Pour moi, la candidature d'Ahmed Yahia est un peu différente des deux autres parce qu'Ahmed Yahia est un très proche d'Hamad, voire un intime d'Hamad. Ils ont plus d'un point commun. Vous avez dit qu'ils ont tous les deux fait un petit peu leur... leur réputation dans l'industrie de la pêche. Ensuite, ils ont dirigé une petite fédération qu'ils ont essayé de structurer avec de bons résultats, en particulier pour Monsieur Yaya. Et s'il se présente après ample concertation, je cite, c'est qu'à mon avis, il est sans doute au courant qu'il y a un gros problème possible pour la candidature de son ami Hamad et qu'il veut peut-être incarner une forme de continuité,
de relais.
Il fait assez consensus dans les instances. C'est quelqu'un qui connaît bien. Alors c'est vrai que c'est une petite fédération, mais ça fait bien longtemps maintenant qu'il est au comité exécutif de la CAF, 3 ans, qui gravite à la FIFA aussi. Donc c'est quelqu'un qui a quand même du poids dans le foot africain aujourd'hui.
C'est un peu Macron du foot africain, quoi.
Pas bête.
C'est un peu ça.
Mais Naïm, c'est on dirait encore une candidature d'Afrique de l'Ouest, encore de l'Afrique francophone. En même temps, la Mauritanie, du coup, ça peut être aussi un lien avec les fédérations du Maghreb.
Ouais, puis il est proche des fédérations arabes.
Surtout marocaines.
Voilà, il a surtout ces soutiens-là. Et puis il y a.
C'est les pays voisins.
Voilà, Motsepe, lui, va représenter l'Afrique anglophone. Il a déjà eu les soutiens de la Sierra Leone, du Nigeria et ainsi de suite.
Du Botswana.
Donc oui, c'est une fédération qui va avoir besoin du soutien d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique noire, mais il aura déjà le Maghreb. Ça, c'est une chose. La deuxième, c'est que moi, je suis assez d'accord, que c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Si sa candidature officielle, ça sous-entend en tout cas que celle d'Hamad devrait être toquée dans les prochains jours, qu'il aura décision de justice, en tout cas un empêchement au-dessus de lui pour sa présentation. J'ai un peu pensé à ça. Après, c'est une élection qui est quand même très ouverte parce que Motsepe arrive avec du soutien, avec des idées. Et lui aussi, alors il n'a pas une fédération, mais il a quand même bien travaillé avec Mamelodi Sundowns. Ils ont chacun un fer de lance sportif qui leur permet d'avoir
des résultats,
crédibilité. Voilà. Après, les élections en Afrique, les élections partout, mais les élections en Afrique, c'est toujours très suspect. Mais Philippe a levé un point important, ou c'est vous, je ne sais plus. Il a été salué par Gianni Infantino. C'est jamais anodin, c'est jamais un détail d'être dans les petits papiers de la FIFA.
C'est-à-dire que Gianni Infantino, surtout, s'était rendu en Mauritanie.
À Nouakchott, il avait été reçu,
exactement.
Justement. Voilà.
Et c'est là qu'il avait vanté le modèle de cette fédération.
C'est jamais un détail, dans une élection comme ça africaine, d'être dans les petits papiers de la FIFA. Ça, c'est une chose.
Philippe, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on attendait la réponse de la commission d'éthique de la FIFA hier, et elle sera retardée, cette décision. Alors, vraisemblablement, parce ça serait pour des raisons de santé de la part de Monsieur Hamad.
Oui, il est à l'isolement, puisqu'il a contracté le coronavirus. Virus, donc ça serait un peu inconvenant de lui annoncer sa suspension en pleine convalescence, en quelque sorte.
Il paraît qu'il est assez touché, physiquement assez touché par le...
Oui. On parlait d'hospitalisation
Donc oui, je pense que l'explication de Patrick est assez juste. Pour autant, on voit bien dans le déchaînement des candidatures qu'il y a des informations qui ont filtré, évidemment, parce que sinon, Ahmed Yahia en particulier ne serait pas candidat contre Hamad, vraisemblablement.
On avait aussi supposé que peut-être que M. Senghor, le Sénégalais...
Pas fini. Il reste 24 heures.
Voilà, alors, il a dit non pour l'instant à l'agence APS, mais sa réponse est assez énigmatique,
alors,
Patrick.
C'est pas un non ferme et définitif, c'est un non. Il a dit, en gros, pour l'instant, on est concentré sur les deux match des Lions de la Teranga dont on va parler plus tard, mais il n'a pas dit non, je refuse catégoriquement.
Sauf que les deux matchs, ils se terminent après le 12.
Voilà, donc moi je pense quand même qu'il est un peu victime de ceux qui se sont présentés avant lui. S'il arrive maintenant, il arrivera un petit peu après les autres. Et je critique pas du tout Monsieur Senghor pour tout ce qu'il a fait, quoi. C'est un bon dirigeant de fédération, c'est quelqu'un qui prend position, qui a des idées, des convictions, mais là, il y a déjà 3 candidats déclarés et c'est pas des moindres. Je veux dire, c'est des gens bien établis dans le football africain. Donc, ça sera pas simple pour lui d'arriver après.
Voilà pour ce qui est de ce timing qui se resserre, donc ce délai, ça sera clos le 12, d'ici là. Dans 2 jours, donc peut-être qu'on aura d'autres candidats et qu'on en reparlera en début d'émission. Et sinon, eh bien, on donnera aussi la parole à ces candidats. Pour ce qui est du continent africain, on y reste, mais on parle de ballon, le football des sélections, surtout qui reprendra ses droits dès demain avec ses éliminatoires en vue de la CAN 2021, elle a gardé son nom, mais qui est repoussée à 2022. Un an après avoir disputé les derniers matchs des éliminatoires, c'était les journées 2 et 3, les internationaux africains rejoignent donc leurs équipes, alors pas toujours très facilement, hein. On les suit, les anecdotes, les empêchements, les retards. Dernier en date, c'est Cédric Bakambou qui dit « je suis dans l'avion », il s'est photographié d'ailleurs dans l'avion.
Oui,
Patrick.
C'est photographié dans l'avion, ça m'étonne un petit
peu
parce
de
que
Chine.
J'avais cru comprendre que son club l'avait retenu, mais visiblement il y a eu des négociations, donc il pourra vraisemblablement être là et ça fera du bien à cette RDC qui a beaucoup de mal à marquer sans lui.
Ouais, et qui doit jouer contre l'Angola.
Mais ce sera très court, en termes de préparation, on est à deux jours du match.
Pas enfin, que pour bon, lui.
Oui, oui, la plupart, non, mais globalement.
Façon, malheureusement, oui.
De toute façon, dans les conditions sportives de ces deux matchs que la CAF veut absolument disputer, on a vu dans les règlements qu'elle a instaurés, qui ressemblent à ce que l'UEFA a fait pour sa Champions League. Mais là, à la dernière minute, on voit bien qu'il n'est pas question de match reporté, globalement, quoi qu'il arrive. Quoi.
Oui.
Que vous ayez 10 cas de Covid, que vous ne puissiez pas voyager, que vous ne puissiez pas...
Vous perdez 2-0.
Ben vous perdez. Mmh. Voilà,
sauf recours devant la commission, ce qui prendra 6 ou 8 mois. Donc
ça sera après la bataille.
Oui, pas tout à fait, mais presque, effectivement.
Après la CAN.
Voilà. encore que. On a du temps, là, on va revenir. Demain, mercredi, donc, premier match. Il y en aura 6 hein, dans cette journée, dont une rencontre Sénégal-Guinée-Bissau dans le groupe I, une confrontation entre voisins dont nous parle Aliou Cissé, le sélectionneur des Lions de la Teranga.
Même si c'est un derby, les enjeux de ce match-là sont aujourd'hui, j'ai envie de dire, sportifs et comptables. Quand je dis sportif, c'est que nous sommes premiers aujourd'hui de cette poule-là avec 6 points et il nous tient à cœur à la fin de ces doubles confrontations contre la Guinée-Bissau de rester premier. Pour ce fait, il nous faudra engager un maximum de points sur ces deux matchs-là. Voilà, maintenant, je préfère gagner avec la manière. Mais à défaut de ne pas pouvoir gagner avec la manière, je crois que ce qui est important pour un compétiteur, c'est de gagner.
Alors, ce match survient un an et demi après la finale de la CAN en Égypte, et donc où le Sénégal était sorti vice-champion d'Afrique. Ils ont été battus assez sévèrement récemment, Philippe Doucet, au Maroc. Mais c'était un match amical, il n'y avait pas Sadio Mané, il n'y avait pas non plus Kalidou Koulibaly. Ils ont été battus 3-1 par les Lions de l'Atlas. Où en est ce Sénégal pour cette double confrontation? La Guinée-Bissau est une des petites équipes africaines, mais qui avait disputé...
Qui avait fait deux CAN dessus.
Exactement. Donc, qui était aussi un peu sur une lancée. On pense
Nation
au Cap-Vert. Voilà, on pense à Madagascar, on pense à la Mauritanie.
Bon, le Sénégal, la sélection en tout cas va bien. Le reste du football, c'est pas. On peut en discuter sur la gestion du championnat, sur plein d'autres choses. Mais en tout cas, la sélection va bien. Elle a une richesse largement reconnue. Elle a des qualités, des capacités de formation. Certains centres privés forment remarquablement et fournissent de bons joueurs dans beaucoup d'endroits. Il y en a plusieurs. Donc il y a une richesse en nombre de joueurs considérable qui s'est encore accentuée. Là, Boulaye Dia est le meilleur buteur du championnat de France. Il vient de nulle part, si j'ose dire. Mais enfin, il arrive tout d'un coup en sélection.
De Jura Sud.
Il arrive de Jura Sud, en l'occurrence. Il a un parcours un peu particulier. Lui, il n'a pas été formé au Sénégal, mais il a un parcours un peu particulier. Mais à l'arrivée, c'est encore une richesse supplémentaire pour le Sénégal. Donc, franchement, dans le groupe où est le Sénégal, il n'y aura pas de souci d'ici la fin. Mais chaque match, Aliou Cissé insiste beaucoup là-dessus d'ailleurs, c'est que chaque match permet de progresser. En fait, les équipes se rassemblent longuement, uniquement lors de la CAN. Et en fait, tous ces matchs-là, ils servent quand même à développer l'équipe. C'est
exactement
ainsi que l'équipe sénégalaise, petit à petit, entre 2015 et 2019, a su se construire. Voilà.
Mm-hmm. Ouais, il anticipe quand même sur la manière en disant voilà. « Bon, nous, ce qu'on veut, c'est gagner. Hein. Si la manière, c'est bien, mais ce qu'on veut surtout, c'est gagner. » C'est principalement ce qu'on reproche au Sénégal, c'est de ne pas fournir le jeu qui correspond à la qualité des joueurs qu'il a. Mais après, ça, c'est un problème dans beaucoup de sélections.
Oui.
Ben oui, c'est-à-dire effectivement, Aliou Cissé est malin parce qu'il a été beaucoup critiqué sur le contenu des matchs récents et notamment ce match contre le Maroc, puisque alors certes le Sénégal a été largement battu au tableau d'affichage, mais sur le match, le Sénégal a plutôt eu la possession, a plutôt fait le jeu, Mais ce qui a manqué, c'est de l'efficacité dans les 30 derniers mètres et dans les deux surfaces. Alors là, effectivement, le retour à la fois de Sadio Mané et de Khalidou Koulibaly, on peut penser que ça va évidemment faire monter d'un cran le niveau de l'équipe. Mais Aliou Cissé, son défi, c'est, Naïm l'a bien dit, c'est de fournir un contenu à la hauteur à la fois des résultats qui restent globalement très bons et du talent dont il dispose. Et je pense qu'il en a les moyens. Il faut que... Peut-être que le message passe mieux et je pense qu'un rassemblement d'une semaine comme ça, même si les joueurs vont être un peu fatigués parce que les calendriers très resserrés les laissent un peu sur les rotules.
Oui, ils ont deux matchs, c'est demain et dimanche soir, voilà. Si je me trompe pas. Donc,
eux, au moins, n'ont pas un trop long voyage.
Non,
déjà un avantage.
En plus. Après, le groupe du Sénégal, il n'y a strictement aucune inquiétude à avoir pour cette équipe. Les adversaires sont très faibles. Le Congo, c'est le Congo Brazza qui est pas à son meilleur. Et l'Eswatini, c'est une des plus mauvaises équipes du continent. Donc,
il faut être dans les deux premiers. Donc,
ils ont déjà battu ces deux équipes-là largement.
En gagnant un sur deux, ils sont quasiment sur billet.
Mais je pense qu'ils peuvent même faire le carton plein sur cette poule.
Oui, et puis c'est intéressant la double confrontation aussi dans l'esprit, parce que finalement on a deux fois le même adversaire, et du coup on peut peut-être aussi, du point de vue tactique.
Il va aussi falloir, là, s'il gagne le premier match, selon la manière dont ça s'enquille avec les clubs, peut-être qu'il fera beaucoup tourner pour le deuxième. Et des équipes comme ça, qui ont des joueurs qui jouent dans des gros clubs ou dans des championnats un peu relevés avec des gros calendriers, si jamais il les balaye sur le premier, il fera tourner sur le deuxième.
Et on le voit d'ailleurs, puisque tous les joueurs qui avaient déclaré forfait ont été remplacés. Donc c'est le signe que Aliou Cissé veut compter sur un groupe assez élargi, peut-être pour ça, pour... pouvoir un peu souffler sur le deuxième match.
Tout le monde a pris des groupes très élargis à cause de la fameuse règle Covid. La CAF, alors, il paraît que c'est en discussion et que la CAF va peut-être revenir là-dessus, mais la CAF impose 11 plus 4, c'est-à-dire 15 joueurs valides. Sinon, ils disputent pas le. On n'est pas autorisé à disputer le match. Alors, il semblerait qu'il y ait des négociations parce qu'il y a des fédérations qui ont dit attendez, c'est déjà compliqué pour nous, ça va. Si on est 11, qu'on puisse jouer, quoi. Qu'on puisse jouer le match.
Certains sélectionneurs ont rappelé des joueurs du championnat local, comme Patrice Baumel, qui a rappelé deux jeunes joueurs du championnat ivoirien qui étaient a priori destinés à être de ce rassemblement, mais au cas où il y ait une cascade d'absence Covid, qui puissent avoir le quota requis.
Les groupes, en général, là, c'est 26, quoi. La moyenne des sélectionneurs, on dit à peu près 26 joueurs. C'est d'ailleurs une journée Cannes, on n'en parle pas parce que on souhaite évidemment que l'Afrique joue, évidemment, mais ça va coûter une fortune aux fédérations. Pratiquement tout le monde est obligé de prendre des avions privés parce que c'est quasi impossible de se déplacer dans le continent de façon simple en ce moment.
Donc, déjà que c'était pas toujours simple avant, mais alors là, effectivement, il y a moins de transport, moins d'avions.
Les coûts sont mirobolants, mais bon. Voilà, l'Afrique, il faut qu'elle rejoue. Voilà. Oui, ça fait un an. Hein. Ça fait un an sans match.
Oui, parce que ces matchs-là auraient dû avoir lieu au mois de mars, vu que la CAN aurait dû avoir lieu au mois de janvier prochain. L'autre rencontre notable, on va dire, ce sera jeudi soir. Côte d'Ivoire, Madagascar, éléphant contre Baréa. Les Baréas, on s'en souvient, l'heureuse surprise de la dernière CAN. C'est un match très important pour ces Ivoiriens et pour leur tout nouveau sélectionneur, finalement. Parce que Patrice Baumel, on s'en souvient, on avait parlé avec lui sur RFI. C'était juste avant le confinement, quelques jours avant le confinement en Europe. Donc, drôle de première pour ce sélectionneur, vous allez l'entendre, qui lui, rappelons-le, était l'adjoint d'Hervé Renard en 2015, lorsque la Côte d'Ivoire avait remporté la CAN.
Je suis forcément déçu et triste de jouer à Ebimpe dans un stade flambant neuf, vide. Je suis autant déçu et triste pour nos supporters. Ceci étant dit, nous devons tous être coopératifs, je pense, dans cette période très délicate, et accepter les décisions prises par les dirigeants de la CAF. Même si, vivant sur Abidjan et la Côte d'Ivoire, les cas de Covid-19 sont plutôt rares, mais nous ne devons respecter les mesures prises dans la mesure où c'est pris pour tous les matchs du continent africain. Ceci étant dit, par rapport à notre préparation, cela ne change en rien notre préparation. Nous devons nous préparer et compter sur nous-mêmes pour faire le job, pour faire le travail.
Alors dans ce groupe K, la Côte d'Ivoire, par contre, c'est un tout petit peu plus délicat, Patrick Juillard. La mission de Patrice Baumel, il le sait évidemment, c'est plus délicat.
Ah oui, la Côte d'Ivoire a mal commencé, puisqu'après deux journées, c'est Madagascar qui est en tête avec 6 points, dont une victoire écrasante, humiliante contre le Niger à Niamey. La Côte d'Ivoire qui, elle, a péniblement battu le Niger 1-0 dans des conditions d'arbitrage un peu douteuses, et ensuite s'est inclinée contre les Éthiopie. Ouais. Donc ça, ça fait quand même désordre. Ça faisait, je crois, plus de 40 ans que c'était pas arrivé à la Côte d'Ivoire. Et donc Baumel, et donc c'est pour ça qu'Ibrahim Camara a été viré, que Baumel a été nommé à sa place. Il a eu quand même deux matchs amicaux le mois dernier, donc un match assez sérieux défensivement contre la Belgique, un match nul un partout, et ensuite au contraire un match contre le Japon où la Côte d'Ivoire s'est fait battre dans les dernières secondes sur une erreur défensive, enfin sur une faute de concentration. Bon, donc il faudra corriger certaines choses. Après, le réservoir de la Côte d'Ivoire est assez phénoménal.
Oui, c'est ça.
Surtout offensivement. Donc là, on a le retour de Gervinho. On a un Wilfried Zaha qui reste quand même un des meilleurs dribbleurs de Première Ligue. Rien que ça.
Ouais, mais après, lui, il correspond pas au jeu de la Côte d'Ivoire, Wilfried Zaha.
Sans doute, mais malgré tout, sur des matchs comme ça, c'est des atouts en plus. C'est des cordes qui... il peut faire jouer plusieurs corps. Non,
c'est pas un problème de jeu. Patrice Baumel a même réussi à attirer des très bons joueurs, parce que Sébastien Haller, l'avant-centre de West Ham, rejoint la sélection à 26 ans. Et Willy Boly, qui doit avoir quoi, 24-25? Ah non, il a 29 ans, Willy Boly. Maintenant. Ah, bon, mon Dieu. Non, ça remonte à loin au CER, alors.
Deux anciens coéquipiers de la JOCR.
Oui, ils étaient à la JOCR.
Et alors, Haller, effectivement, un très bon joueur qui, à une époque, était parfois annoncé sur les tablettes de l'équipe de France.
Qui a été présélectionné, d'ailleurs.
Qui a pré-convoqué, en fait. Oui. Et un joueur qui ne joue malheureusement plus tellement à West Ham cette saison. Donc,
il a joué les deux derniers matchs.
La Côte d'Ivoire peut être une bonne manière de se relancer, de reprendre confiance.
Qui est un attaquant complet, qui a un très bon jeu de tête, qui est rapide, qui est bon dos au jeu, qui sait garder le ballon. Ça va être intéressant de le voir évoluer dans cette équipe parce qu'il y a des vraies qualités. C'est pas un attaquant, j'en fais pas un Lionel Messi ou un je sais pas quoi.
Mais
il est bon quand même. Et c'est vrai qu'à une époque, t'es pas un l'équipe de France. Mais pour la Côte d'Ivoire, ce qui est sans dire qu'elle a le réservoir du Sénégal, voire même de l'Algérie actuellement. C'est une équipe qui a quand même sur toutes les lignes des joueurs qui sont soit titulaires dans de bons clubs, soit qui appartiennent à de très bons clubs, qui ont de l'expérience, qu'on voit régulièrement en Europe. Kessié fait une bonne saison avec Milan. Mm-hmm. Vous avez toujours des bons joueurs. Gervinho qui reste très bon avec Parme. Et finalement, dans le jeu, ça ne prend plus depuis 3 ou 4 ans. Leur dernière CAN est...
insipide.
Ils avaient sorti le Mali, mais de manière un peu folle, parce qu'ils ne devaient jamais passer ce match-là. Et c'est pas le jeu le souci, c'est même pas les hommes, parce qu'il y a un bel effectif. C'est au-delà de ça, mais c'est souvent le problème le plus grave dans les sélections.
En fait.
Oui, puis même, je pense qu'il y a 2-3 problèmes en interne aussi, sur la manière dont les sélections, la sélection est gérée.
Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que là, Baumel, comme avait fait Renard à l'époque, et Baumel n'y était pas pour rien, c'était l'adjoint, il a trouver des jeunes défenseurs qui commencent à avoir du temps de jeu dans des bons clubs européens. Donc on a Sinali Diomandé qui commence à être titulaire à l'OL, pas mal. On a Odilon Kosunou qui est aussi titulaire au FC Bruges, qui joue des matchs de Ligue des Champions. Donc ce sont des joueurs intéressants qui sont en devenir et qui peuvent apporter à cette sélection, régénérer un peu un secteur qui était un... secteur défensif qui n'était pas le point fort de l'équipe.
C'est vrai.
Philippe, mais ça sera face à Madagascar, et c'est vrai que Madagascar, on est resté sur un quart de finale à la dernière CAN, et c'est une équipe ambitieuse avec Nicolas Dupuis.
Oui, clairement, c'est une équipe qui a changé d'ambition, qui a vraiment envie de retourner à la CAN. C'était une première, mais ils ont envie d'y retourner au plus vite. Après, Nicolas Dupuis a annoncé déjà que l'équipe était handicapée, qu'elle avait perdu beaucoup de joueurs à cause du Covid et voulait même reporter les matchs. Bon, la réponse de la CAF n'a pas été très favorable à Madagascar, ce qui est un comble quand même, on comprend pas. Non, je plaisante, mais on ne sait pas quelle équipe Nicolas Dupuis pourra aligner à suivre jeudi.
Oui. À noter aussi, il y aura ces prochaines heures un Guinée-Tchad dans le groupe A et Mauritanie-Burundi. Ça sera dans le groupe E. Ça sera demain et on verra sur RFI, on suivra ces matchs. En attendant, on va faire un petit crochet par l'Europe, la Ligue des Nations, des amicaux et notamment un amical pour les Bleus.
Muistuna Karjalamaa, mutta vieläkin syömässä soinahtaa. Kun soittajan sormista kuulassa
se kierven polkkaa.
Se polkka täs menneitä mieleen tuo ja se outoa kaiputa rintaan luo. Hei soittaja haitarin soida sua
se kierven polkkaa.
Nuoren ja vanhan se tanssiin vie.
Ei sille polkalle pertailien.
Sen kanssa on vaikka mieron tie.
Voilà, on a une idée du style musical de ce qui se passe en Finlande grâce à Laurence Alerno. Il manque un petit verre verre de schnapps et puis on a l'impression qu'on serait dans l'ambiance.
Il y a quand même des groupes plus rock en Finlande. Hein,
mais... on cherchera pour le prochain match. Parce que la Finlande, vous le savez, sera l'invitée. Elle s'est qualifiée pour le prochain Euro. Et ça sera sa première compétition continentale en 2021, donc, puisque l'Euro 2020 a gardé son nom, mais se déroulera en 2021. Alors, c'est une rencontre amicale qui permettra à l'équipe de France, peut-être sur le mode France-Ukraine, hein, la dernière fois, il y a un mois, de se mettre en jambes en pensant à Lisbonne et au Portugal de Cristiano Ronaldo. Pour cette rencontre, Didier Deschamps fera sans doute donc des tests, d'abord parce qu'il ne faudra pas prendre de risques avec tous les blessés ou demi-blessés, et il y en a pas mal. Surtout Mbappé, Kimpembe,
Pavard, six joueurs qui seront pas sur
il a dit entre 5 et 6, Didier Deschamps.
C'est une demi-équipe.
Oui, exactement.
Enfin, un quart de groupe.
Ouais, si vous voulez.
Ça doit être 26.
Mais d'ailleurs, c'est assez amusant ça, Philippe. Mbappé est considéré comme blessé. Mbappé, Kimpembe, je pense aussi à Neymar qui est parti au Brésil. Ils sont blessés aux yeux de leur club et malgré tout, ils sont convoqués en sélection.
Non, mais blessés au premier jour d'un stage ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas jouer le premier, non pas le premier, ça c'est sûr, mais le deuxième, voire le troisième match. On peut très bien prendre un joueur, on a vu ça dans des Coupes du Monde, prendre un joueur qui n'est pas apte avant le troisième match, voire parfois huitième de finale.
Zidane,
on se rappelle de l'affaire Zidane, on se rappelle de l'affaire Vieira à l'Euro 2008, non, sauf erreur. Qui parfois, ce n'est pas forcément une bonne décision, mais on peut en tout cas prendre un joueur en. Et blessé, c'est pas éternel. Hein.
C'est un pari, en fait.
Il faut voir ce qu'on appelle blessé aussi. S'il a reçu un coup, qu'il ressent une douleur, ou si c'est, il est pas dans la capacité de jouer. C'est souvent, quand on dit, il arrive blessé,
ça avait tiré derrière la cuisse, mais sans doute pas gravement.
Il fera des soins sur les 3-4 premiers jours, il jouera le Portugal, même s'il est pas titulaire.
Benjamin Pavard, lui, il est aussi donc sur cette liste et il pourrait aider ou servir cette blessure, en tout cas, ou son absence. Un certain Ruben Aguilar que Didier Deschamps a convoqué. Alors c'est un nouveau et on a décidé d'en parler. Didier Deschamps l'avait repéré depuis qu'il était à Montpellier.
Je l'ai pas pris par défaut. Je l'ai pris pour de bonnes raisons parce que je veux pas me retrouver avec seulement Léo Dubois pour le match de mercredi, puisque Benjamin Pavard ne sera pas disponible. Donc il est là, déjà à Montpellier, faisait des choses intéressantes, mais il jouait surtout dans un schéma à 3 défenseurs centraux, donc c'était plus un joueur de couloir. Là, avec Monaco, il joue plus à 4, donc évidemment, l'aspect défensif est un peu plus important. C'est un joueur qui a beaucoup d'énergie, le volume, la capacité de faire les allers et retours, un joueur agressif, qui a encore une marge de progression. Il aura l'occasion aussi d'être parmi nous, de découvrir et puis probablement d'avoir du temps de jeu peut-être.
Ce Ruben Aguilar, il arrive en sélection Naïm Moniol, 27 ans.
Oui.
Il a un parcours un peu sinueux, mais comme le dit Deschamps, donc il l'avait déjà repéré depuis Montpellier.
Oui, c'est un bon joueur de club. Et c'est vrai qu'à l'époque, on en parlait beaucoup plus en équipe de France à l'époque où il jouait à Montpellier qu'à l'époque où comme maintenant quand il joue à Monaco. À l'époque, c'était Sidi Bé, l'arrière droit titulaire d'ailleurs. Et c'est vrai qu'on trouvait, on voyait un joueur comme ça, agréable techniquement, qui était rapide, qui prenait le couloir, il correspond un peu aux latéraux offensifs qu'on aime bien. Puis c'est vrai que depuis qu'il arrive à Monaco, les performances sont pas vraiment diminuées, mais enfin, moi je pense qu'on est quand même pas réellement dans ce qu'on appelle le niveau international. C'est d'ailleurs le 3.
C'est à l'image de l'équipe, hein, de toute façon.
C'est surtout l'image du poste, en fait. C'est un poste où on n'arrive pas à avoir un vrai arrière droit de niveau international comme d'autres sélections. Donc voilà, Pavard aujourd'hui, c'est ce qu'on fait de mieux. Mais c'est vrai que derrière, Sidi Bé, on le voit plus, que Dubois, ça n'a pas le niveau international, et que donc Ruben Aguilar, pour moi, l'a pas non plus, il vient pour dépanner, c'est le quatrième ou cinquième choix de Deschamps, on a vu qu'il a un peu testé tout le monde, Bounassar, Moukielé, et ainsi de suite. Donc bon, après, ça peut pas dire que c'est un mauvais joueur, et je suis sûr que quand dans cette situation, on se retrouve en équipe de France, on donne tout à 200%, beaucoup plus que les autres pour y revenir.
Quand on est quatrième ou cinquième choix, ça influe sur, le futur?
Bon, Philippe. Pour lui, c'est une bouffée d'oxygène, quoi qu'il arrive. C'est fantastique d'être en équipe de France, même s'il sait très bien, il est pas naïf, il sait très bien qu'il n'est pas à la première roue du carrosse, que il jouera sûrement contre la Finlande. Pour économiser ceux qui sont susceptibles de jouer les matchs importants. Bon, il va prendre avec grand plaisir cette première sélection, en se disant, après tout, j'ai ma chance. pourquoi pas tenter, puisque le poste n'est effectivement pas le plus relevé dans l'équipe de France.
Oui, absolument.
Alors, l'information, Patrick, qui était intéressante aussi, c'est qu'on dit que Bounassar aurait été, donc l'ancien Marseillais, aurait été contacté par l'équipe de France pour venir, et finalement, il y aurait eu un barrage de la part du club du Bayern. C'est... Le Bayern peut comme ça faire barrage peut-être rêve d'un joueur.
Officiellement, Bounassar aurait un début de blessure, et par précaution, le Bayern ne souhaiterait pas le laisser à la disposition de l'équipe de France. En réalité, je pense que le Bayern n'a pas voulu risquer que son deuxième latéral droit, puisque le premier c'est Pavard, qui n'est pas toujours utilisé à ce poste, mais qui est considéré comme un latéral droit, se blesse aussi ou aggrave peut-être ce début de petite blessure. Voilà.
Alors, il n'y a vraiment plus de
solution. Donc, ils ont pas, c'est pas, effectivement, je pense que c'est une logique d'effectif, mais Bounassar, d'après ce que je sais de ceux qui l'ont contacté depuis, est extrêmement déçu, même s'il ne l'a pas montré. Il a fait bonne figure sur les réseaux sociaux parce que c'est quelqu'un qui n'est pas du genre à ramener les choses à lui et tout ça, mais il est très déçu parce que c'était une vraie chance pour lui. Et bon, Aguilar, moi je partage ce que dit Naïm, c'est pour moi un bon joueur et je pense qu'il est vraiment meilleur que Léo Dubois qui pour moi n'a pas du tout sa place. Ça fait longtemps que je le pense et aucun match ne m'a démenti depuis. Après, il arrive derrière Ferland Mendy qui est plutôt qui peut jouer des deux côtés. Il y a Nordi Mukiele. Donc c'est un vraiment, et donc Bounassar, c'est un quatrième choix Aguilar. Donc pour lui, ça ne peut être que du bonus. S'il fait
de
un bon
montrer,
match,
oui,
il peut peut-être monter un peu dans la hiérarchie qui existe dans la tête de Didier Deschamps. Et un joueur qui peut s'inquiéter, c'est peut-être Léo Dubois. Parce que si Deschamps pense à Ferland Mendy ou à d'autres joueurs de Ligue 1 remplacer, veut dire qu'il n'est pas très sûr de lui.
Je pense que le plan B de Deschamps derrière Pavard, si la tendance se confirme, ça serait de mettre Ferland Mendy, qui est gaucher,
du Real Madrid.
Voilà. Et ça veut dire qu'une équipe championne du monde aujourd'hui ne peut pas fournir deux arrière-droits de niveau international.
Ceci dit, la France avait été championne du monde en 98 avec un latéral droit qui était un arrière-central, Lilian Thuram.
Oui, bien sûr. À la rigueur,
rappelons-nous de la Coupe du Monde 2018 où on est parti avec deux titulaires brinque-ballant et finalement on a trouvé tardivement, genre en mars, deux remplaçants qui finalement ont fait toute la Coupe du Monde. Monde et qui ont fait l'affaire. Donc,
et qui maintenant jouent au Bayern.
Et qui jouent tous les deux au Bayern. Donc la bonne étoile de Deschamps peut s'appliquer à d'autres. Mais pour finir sur l'histoire Bounassar,
il aura une autre chance.
Un club ne peut pas refuser qu'un joueur vienne. Ouais. D'ailleurs, Deschamps aurait pu insister, par exemple, en disant « Je veux vérifier la blessure, je veux qu'il vienne, etc. » Mais bon, Deschamps est intelligent. Il ne va pas se fâcher avec le Bayern, qui est un pourvoyeur important de clubs de l'équipe de France. Il ne va pas se fâcher avec eux pour des matchs de Ligue des Nations. Il a un euro à préparer. Il aura d'autres occasions d'éventuellement brusquer le Bayern, mais surtout pas là. Ça valait pas le coup.
Vous pensez que Bounassar aura une autre chance?
Oui, je pense. Oui, je pense. Enfin, d'après ce que dit Patrick, moi je suis Patrick. Si Léo Desmoua n'a pas le niveau, Bounassar aura sa chance.
Non, mais surtout qu'il a un temps de jeu plus important que ce qu'on pouvait penser lorsqu'il est arrivé au Bayern.
Non, mais surtout, il joue au Bayern. Le même joueur, s'il joue à Lyon. S'il joue à Lyon, il l'intéresse moyennement. S'il joue au Bayern, il a envie de le prendre.
C'est du très très haut niveau.
C'est comme ça.
Si Deschamps arrive à jouer, c'est
en plus, il est la doublure de Pavard. Ça peut.
Puis il est très polyvalent, Bounassar. Il défend bien, il est offensif.
Allez, on va s'arrêter sur une petite histoire, triste histoire même, mais pour rétablir, on va dire, l'honneur d'un joueur, mais qui a servi 29 fois sous le maillot des Bleus et qui aurait pu être, qui sait, vice-champion d'Europe, voire champion du monde. Ce joueur, c'est le défenseur central Mamadou Sakho, ancien joueur du Paris Saint-Germain. On s'en souvient de Liverpool aussi. Et qui est aujourd'hui en Première Ligue à Crystal Palace. Et à qui il est arrivé? Eh bien, on peut dire une horrible aventure. C'est vraiment un triste moment alors qu'il était à l'apogée de sa carrière. À 26 ans, il est accusé de dopage alors que jusque quelques semaines après, il y a une finale de Ligue Europa que disputera Liverpool. Il y a ensuite l'Euro 2016 et Deschamps l'appelait régulièrement. On se souvient qu'il avait été un des hommes clés dans la qualification de l'équipe de France.
Pour le Mondial 2014.
Voilà, exactement, pour aller au Brésil, et il est mis de côté à la fois par le club et par Deschamps. L'Agence mondiale antidopage a, ces derniers jours, présenté ses excuses en le disculpant, 4 ans après quand même, et Didier Deschamps le sait bien, le mal est irréparable.
Content pour lui, parce que forcément ça a été une énorme injustice pour lui. Il était convaincu de sa position. Et la justice lui a rendu raison. malheureusement, sur le plan sportif, ça ne pourra pas récupérer ce qu'il aurait pu avoir et qui a conditionné beaucoup de choses.
Naïm Monial, il demande évidemment une compensation financière. Bon, oui, certainement. Oui. Mais c'est vraiment...
Ça lui a flingué sa carrière.
Voilà.
Mamadou Sakho, ça lui a flingué sa carrière. Je ne dis pas qu'il aurait été... Alors vous dites qu'il aurait été champion du monde. Est-ce qu'il aurait été pris en 2018?
Non, je dis peut-être. Hein.
Peut-être, oui.
Il aurait été à l'Euro.
Il aurait été à l'Euro, ça c'est certain.
Il aurait été champion d'Europe pour moi.
Mais ça lui a flingué sa carrière parce que derrière, bon, on sait qu'il est parvenu comme il fallait à Liverpool, qu'il a quitté un club qui est devenu par la suite champion d'Europe, champion d'Angleterre.
D'ailleurs, Jürgen Klopp a fait un message très sympathique à son égard. Alors qu'il était...
Il est parti en bon terme. Ouais. Ça lui a flingué sa carrière internationale. Ça lui a fait quitter Liverpool.
Pour son image aussi, c'était terrible.
Et puis pour son image, il ne rattrapera jamais les années qu'il a perdues, les 2-3 années où il est parti à Crystal Palace, où son niveau s'est un peu étiolé. Il ne les récupérera jamais. Il va avoir 31 ans au mois de février. Bon, il lui reste encore quelques années de football, mais ça lui a flingué sa carrière. Alors, sur le problème, que l'Agence mondiale antidopage le suspende parce qu'il est contrôlé positif, parce que sur le moment, le test est positif. Mm-hmm. Donc, qu'elle le suspende, c'est pas anodin. Ce qui est terrible, c'est le timing. Comment est-ce qu'on s'est rendu compte de l'erreur autant de temps après? Ça, c'est une bévue incroyable.
Surtout que l'UEFA avait déjà fait son mea culpa il y a quelques temps.
C'est terrible, ça ne doit pas arriver. Et Dieu sait que c'est compliqué, l'Agence mondiale antidopage, d'essayer d'avoir des tests,
il faut les
confirmer. Vous savez, il se passe beaucoup de choses en interne. Par moment, certains, on devrait les contrôler, ils ne sont pas contrôlés, ils arrivent à passer un peu machin. Bon, ces institutions-là, c'est très particulier, très peu lisible. Mais mettre autant de temps à réhabiliter un joueur, c'est une catastrophe.
Philippe, c'est vraiment un exemple triste. Et en plus, c'est ça, c'est le côté irréparable de ça. Il était à un bon moment de sa carrière et le moment est passé.
Oui, c'est effectivement...
C'est cruel.
C'est très cruel pour ce moment qu'il a vécu. Après... il faut aussi dire que il n'aurait pas été à vie en équipe de France. Après, il a perdu son niveau, il a baissé. Est-ce que c'est uniquement à cause de ça? Bon, on peut toujours.
Ça a joué
indiscutablement sur son année 2016. Ça a joué à l'évidence. Il aurait joué une finale de Coupe d'Europe, l'Europa League à l'époque. Il aurait joué l'Euro. Ça, c'est une certitude. Après, on peut pas extrapoler sur le reste parce qu'il a perdu son niveau assez peu de temps après. Finalement, il a perdu sa place à Liverpool, puis à Crystal Palace aujourd'hui. Il est même pas toujours titulaire. Donc il a curieusement un peu lâché. Est-ce que c'est à cause de ça? Sûrement pas complètement. Mais ça fait partie en tout cas des raisons.
En fait, on voit en fait combien pour le sport il est difficile de subir ce décalage de temps entre le temps sportif,
les
matchs tous les trois jours, les résultats, l'impératif permanent et de résultats,
et l'entretien physique,
le temps judiciaire qui peut durer des années. Alors que pour ces institutions-là, c'est un délai qui peut paraître normal. Donc, mais pour une carrière d'un joueur de foot qui dure une dizaine d'années ou une douzaine d'années, perdre autant de temps, ça l'a ruiné, sa carrière. Alors, tout n'est pas à mettre sur le dos mais ça a grandement contribué, à mon avis, à ruiner sa carrière.
Ça n'a peut-être pas flingué son jeu, mais Mamadou Sakho, il a fait sa carrière sur son état d'esprit. C'est un guerrier.
Ça n'a jamais été
un très grand joueur de ballon, mais ça a toujours été un vrai bonhomme. Et le match contre l'Ukraine, vous en parlez
exactement.
À juste titre. Ça a toujours été quelqu'un. C'est un leader naturel. Et je pense que quand vous arrive un truc comme ça, vous avez beau être fort, vous avez beau être conditionné depuis que vous êtes gamin.
Et l'injustice.
Vous prenez un sacré coup sur la carafe.
Il était bien complémentaire de Varane, d'ailleurs.
Allez, on continue, on va faire un petit tour par l'Espagne.
Penalty donc pour Valence, c'est le quatrième, donc ça va être le quatrième penalty. Autre duel, donc Carlos Soler, Thibaut Courtois. Carlos Soler, comme le précédent, il le tire très bien avec à propos et beaucoup de certitude. 4-1 donc pour Valence. Le Real est giflé à Mestalla.
Une grosse déconvenue pour le Real Madrid, une de plus dans cette saison étrange où les bons résultats peuvent parfois alterner avec les mauvais. Pour le Real donc, ce fut une sortie calamiteuse à Valence. Pourtant Karim Benzema avait ouvert le score avant de se blesser. Zinedine Zidane s'explique mal cette défaite.
Tout d'abord, nous avons très bien débuté cette rencontre. Mais après avoir marqué le premier but, nous avons perdu le fil. Nous n'avons pas su conserver notre plan de jeu. Nous avons concédé 3 buts sur pénalty et 1 contre notre camp. C'est assez difficile d'analyser ce résultat car je pense que nous avions bien joué jusqu'au moment de l'égalisation. Je n'ai aucune explication ni aucune excuse. Le scénario a changé alors que nous étions bien partis. Après l'égalisation, nous nous sommes sentis perdus et avec ces 3 pénaltys, tout allait de plus en plus mal. Tout était contre nous aujourd'hui. C'est un mauvais match, une mauvaise journée.
On dit que la VAR leur est souvent, ou l'arbitrage leur est souvent favorable. Là, en l'occurrence, c'était absolument pas le cas. Bonjour François David.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Salut. François David, racontez-nous, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans cette défaite, voire cette déroute, hein, si on veut. Je sais que la presse madrilène, le lendemain, a massacré cette équipe des Merengues. Quelle est la raison de cette déconvenue?
Bah, je pense qu'il va falloir s'attendre à voir ça dans les prochains mois que le Real Madrid, parce que c'est le même Real qu'on avait vu défait par Manchester City en Ligue des Champions au retour après le déconfinement. C'est une équipe qui n'a pas bougé, pas du tout, aucune signature. C'est le même groupe, en accordant peut-être une signature exceptionnelle cet été. Tout le monde sait de qui on veut parler, de Mbappé. Que peut-être le Real aura, mais c'est une équipe en transition. C'est une équipe en transition entre deux générations. Alors c'est vrai que c'est compliqué de comprendre comment une équipe qui a si bien joué contre l'Inter Milan, aller au pressing, aller chercher voler des ballons, quelques jours plus tard, s'écroule face à Valence. Alors dans un schéma différent, parce que je crois que les joueurs ont plus les jambes, certains cadres ont plus les jambes pour aller faire 2 matchs avec de grosses intensités des fois de suite, mais comme le disait Zidane, le Real est plutôt bien joué pendant 30-35 minutes, il marque, et après on a la sensation que dès qu'ils se prennent un but, eh bien tout s'écroule. Donc c'est cette force mentale qu'a perdu Zidane, mais je pense qu'on va le revoir cette saison.
Patrick Juillard, il y avait des absents aussi importants hein, à cause du Covid, Hazard et Casemiro, et on avait vu qu'Hazard commençait à rentrer un peu dans le jeu avec Benzema.
Moi, je résumerais cette défaite au mot VAR. D'abord le VAR, parce que je ne dis pas que les pénaltys accordés à Valence n'étaient pas valables, mais sans le VAR, dans un football sans vidéo, peut-être qu'ils n'auraient pas tous été accordés. Et le VAR, Varane, qui a été coupable qui a été coupable sur le deuxième but, qui a encore une fois s'est emmêlé les crayons dans la surface. Ça commence à faire beaucoup. Je veux pas du tout m'acharner. Je pense que c'est un super joueur. Je ne suis pas de ceux qui doutent de lui depuis des années.
Là, il y avait Ramos, hein. On peut pas
comme
dire qu'il était tout seul.
Voilà, mais. C'est au-delà de l'absence ou de la présence de Ramos. Je pense qu'il a un gros passage difficile et ça peut arriver dans une carrière. Et il faudra sans doute un match déclic dans le bon sens pour passer ce cap-là. Mais il a pas l'air bien le père Varane.
Naïm Ognol.
En fait, avec le Real, il y a finalement pas grand-chose qui change. Que le Real soit capable de fournir du beau football sur 30 minutes et d'être méconnaissable les 30 minutes qui suivent, finalement, ça fait longtemps qu'on le voit comme ça.
Contre l'Inter, c'était un peu
voilà.
Ça.
Et puis, ouais, puis même bon pendant match, le Final Eight, mais... même sur la fin de saison en Espagne, voilà.
Le tournoi final, voilà, ils n'étaient pas.
Bah, si, ils ont été éliminés par Manchester City.
Ouais, ils ont joué un match.
Voilà, ils ont joué un match.
Mais
quoi.
C'était le match retour.
Que ce soit une équipe qui n'a pas un fond de jeu identifié, établi, qui se repose principalement sur ses individualités, c'est un peu le cas depuis un moment. Ce qui change, par contre, ce qui tranche un peu avec la fin de saison en Espagne, du championnat là, l'été dernier, non, ils défendent mal. C'est-à-dire qu'on va dire qu'ils prenaient pas beaucoup de buts. Sur la fin de saison dernière, ils arrivaient toujours un peu à meubler, puis souvent ils gagnaient sur un but de Benzema ou un péno de Ramos, ou des fois les deux. Et puis il a été champion d'Espagne comme ça. Là, c'est une équipe qui prend beaucoup de buts, même sur les matchs qu'il arrive à retourner, parce qu'il a retourné quand même des matchs. En Ligue des Champions, Mönchengladbach, il l'a retourné. Il a été capable de revenir à 3-2 contre Benes. C'est une équipe qui prend beaucoup, beaucoup de buts
oui,
en fait.
Et puis sur des erreurs inhabituelles à son niveau.
Et beaucoup plus qu'avec les mêmes joueurs, beaucoup plus qu'il y a encore quelques semaines, quelques mois avec les mêmes joueurs.
Philippe ?
Non, mais je le dis chaque semaine quand je viens ici. La folie des calendriers fait que les équipes sont d'une irrégularité à laquelle on n'est pas du tout habitué.
On n'est pas du tout habitué
à ce que le Barça fasse un match pourri à un moment, que le Real fasse de même.
Aston Villa, Liverpool.
même Liverpool, bon, Je dirais que les deux seules exceptions, c'est Bayern et Liverpool, qui ont eu chacun un accro. Mais enfin, le reste du temps, ils ont une valeur qui est quand même, qui reste de très haut niveau, assez constante. Pour les autres, je ne vois que des hauts et des bas. Le Barça a été remarquable contre le Betis samedi.
Oui.
Personne ne le dit parce que c'est beaucoup plus intéressant de parler du Barça quand ça va très mal. Mais ils ont été très très bons. C'était un super match. Mais en ce moment, on est surtout, et je le reconnais, moi aussi, on est surtout éberlué par moments de voir des équipes, mais alors, totalement absentes.
Ouais.
Et puis alors, quand elles sont absentes, ils prennent 4 buts ou 7 même pour Liverpool. Enfin, par moment, le Bayern avait pris 4 buts aussi contre Hoffenheim. Donc c'est très déroutant. Cette période de l'année est extrêmement déroutante. Mais on sait tous pourquoi. Hein.
Ouais.
Un mois de moins de compétition et il faut jouer autant de matchs. Bon, bah, c'est n'importe quoi. Voilà, c'est tout.
François, par contre, du côté de Madrid, du coup, qui est passé devant l'autre ? C'est l'Atlético. On a l'impression que cette année, l'Atlético, ça va un peu mieux. Et notamment, ces Madrilènes qui sont vainqueurs assez faciles à Cadix. Hein, si je ne me trompe pas, c'est un promu cette année, Cadix.
Oui, c'est un bon promu, Yannick.
Oui. Non, je voulais pas dire le contraire, mais une proie peut-être facile tout d'un coup. Et avec Suarez, le pistolero, qui marque encore 5 buts en 6 matchs.
Oui, 5 buts en 6 matchs, 17 buts pour l'Atlético Madrid et seulement 2 buts encaissés par les colchoneros. Alors, ce qui était marrant, c'est que ces dernières années, on parlait plus de l'Atlético Madrid en parlant de Godín, de Jiménez, de Oblak, de toute la défense, de toute cette identité qu'avait l'Atlético, et désormais on part justement c'est cette transition là qui est intéressante, parce que désormais on part plus de João Félix, de Llorente, de Luis Suarez évidemment, qui a marqué vous l'avez dit 5 buts et puis une passe décisive cette saison. D'ailleurs, Diego Simeone en parlait, que l'Atlético de Madrid était obligé de faire évoluer son jeu de par la présence de Luis Suarez. Il n'y a pas du tout le même profil qu'un Diego Costa, par exemple, qui allait beaucoup plus en profondeur, qui partait de beaucoup plus loin. Luis Suarez, c'est vraiment l'homme de surface. Donc, ils ont changé leur manière de jouer, leur façon de jouer. Et, a priori, ça marche, et Diego Simeone a l'air plutôt content, et peut-être pas poursuivre dans les années à venir. En plus, ils ont une profondeur devant eux, ils sont moins touchés peut-être par les blessures. Je reviens juste une toute petite seconde sur le Real Madrid. Valverde, qui est si important dans le pressing, dans la récupération, un mois absent. Donc là, ça peut être aussi après Casemiro, Valverde. Je referme la parenthèse.
Et Benzema
aussi. Comme Herrera, le Mexicain, qui est bon, Coquet est bon, et toute la défense aussi est bien. Donc, c'est une équipe super complète. Ils sont fait gifler par le Bayern Munich en Ligue des Champions, mais actuellement, que ce soit le Barça, le Bayern ou le Real Madrid, aucun de ces trois clubs espagnols n'a niveau en ce moment pour remporter une Champions League.
Oui, Patrick.
Il faut souligner aussi l'émergence de João Félix, qui a enfin digéré son transfert et
qui
commence à enchaîner les doublés, enfin qui est impressionnant sur ces derniers matchs.
Ouais. Pour terminer, François, en quelques secondes, mais le Barça vient de perdre Ansu Fati. Il s'est blessé et opéré du ménisque, si je me trompe pas. Et il y en a au moins pour 4 mois. Peut-être au moment où Dembélé a l'air d'être sur ses deux jambes.
Bah, heureusement pour Barça que Dembélé revient bien, mais bon, 4 mois, alors c'est pas, font pas les ligaments croisés, c'est juste le ménisque qui a été touché, donc 4 mois, il est jeune, on peut compter que dans 5 mois et demi, il sera peut-être pas à 100%, mais pas très très loin. Donc c'est effectivement un coup dur, parce que c'était celui qui incarnait un petit peu l'illusion du FC Barcelone, celui qui faisait peur aussi aux adversaires. Il avait marqué déjà 4 buts et une passe cette saison, en tout cas, donc il va falloir jouer sans lui. On comptera évidemment peut-être plus sur des joueurs comme Dembélé ou Antoine Griezmann, qui a peut-être fait son meilleur match de la saison contre le Betis. Et il faudra voir aussi ce qui va se passer au marché d'hiver, parce que Ansu Fati ne sera pas là. Et on sait tous qu'il y a un joueur qui intéresse énormément Ronald Koeman, qui est Memphis Depay, l'attaquant de Lyon, et qui là pourrait avoir une vraie opportunité de venir à Barcelone.
On surveille aussi, nous, du côté de Lyon, évidemment. Merci beaucoup, François David, d'avoir été en direct avec nous. Muchas gracias et à très bientôt.
Hasta luego, à très vite.
Hasta luego, merci. Eh bien voilà, c'était le point sur ce championnat d'Espagne. On essaie de faire un peu le point sur les championnats en attendant que les matchs internationaux commencent véritablement dans les continents divers et variés. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été dans le studio de Radio Foot aujourd'hui. Laurent Salerno était donc notre maestro à la réalisation et Marie-Amélie Motte m'a aidé à préparer l'émission. On vous dit à demain.